Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour Culture Média ce matin. Au menu, médias et culture au sens large. On va parler d'une nouvelle série et de fromage frais. Oui, avec en prime le journal des médias de Cyril La Carrière et le journal de la culture d'Hélène Manarino. Notre info média, l'affaire Presstalis qui n'en finit pas de sombrer. Le principal distributeur de presse en France a rendez-vous mardi au tribunal de commerce. Tribunal qui peut décider d'un redressement judiciaire ou pire, d'une liquidation. On fera le point avec Éric Fotorino. Nos invités ensuite, Carole Gessler, la présentatrice du 19-20 qui lance ce soir Des Racines et des Ailes consacrées à la Normandie au printemps. Et scoop, je peux déjà vous dire qu'ils ont tourné l'an passé. Enfin, la scénariste et cinéaste Danielle Thompson pour Un jour, un destin consacré à Gérard Rory. C'était son papa et elle sait surtout de quoi elle parle. Elle était la scénariste, écoutez bien, de La Grande Vadrouille, du Corneau, de La Folie des Grandeurs et de Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, rien que ça. Et je voulais juste ajouter qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, je vais partir prendre des cours de diction. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril La Carrière.
Bonjour Rabbi Jacob.
Place au journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin, à part au sarcasme?
Le sommaire du jour, une page internet à oublier, Alex Good qu'on n'arrête plus, Canal Plus qui verrouille ses consultants foot, Disney Plus, le seul rayon de soleil de Disney, et Michelle Obama, star de Netflix.
Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Il est fort, ce Harry Potter, le quatrième épisode des aventures du sorcier de Poudlard ont été regardés par plus de 6 900 000 Français. Et Voldemort n'a qu'à bien se tenir, bravo à TF1. Derrière, c'est un très bon score pour France 3. La série Tandem réunit plus de 5 100 000 téléspectateurs, un score stable par rapport à la semaine dernière. Cauchemar en cuisine sur M6 prend la troisième place avec 2 400 000 téléspectateurs. Et deux choses supplémentaires à noter hier soir. Lancement raté pour la nouvelle émission de Frédéric Lopez sur France 2, qui est sous la barre des 2 millions. Et bon score, en revanche, sur TMC pour Martin Veil, lui au-dessus du million de téléspectateurs.
Culture Média.
Cyril, on commence maintenant ce journal des médias par une page internet qui a fait débat.
Et la voilà qui disparaît. On vous en a parlé de cette page du site gouvernement.fr où étaient répertoriés des articles pour lutter contre les fake news sur le coronavirus. Une initiative qui a beaucoup énervé les médias français. Une tribune a même été publiée dimanche pour demander son retrait. C'est désormais chose faite. Et c'est le ministre de la Culture qui l'a annoncé hier à l'Assemblée nationale. On écoute Franck Riester.
Bien évidemment, le service qui était proposé par le porte-parole qui visait simplement à apporter un service supplémentaire pour regrouper sous une même page les ressources de lutte contre les désinformations concernant la crise sanitaire ne représentait évidemment pas un objectif de tri d'articles ou d'informations. Pour autant, je peux comprendre les inquiétudes qui ont été suscitées par ce service dans les rédactions. Parce qu'il ne s'agit absolument pas pour l'État de labelliser les médias ou d'orienter le choix des Français vers tel ou tel média. En tant que ministre de la Culture, garant de la liberté de la presse, garant de son indépendance et du pluralisme de la presse, je souhaite donc vous annoncer que le gouvernement a pris la décision de retirer cette page du site du gouvernement. J'en profite enfin pour saluer le travail remarquable des journalistes pendant la crise qui ont contribué, malgré les difficultés, à informer nos compatriotes et à lutter efficacement contre les désinformations.
Le ministre de la Culture remercie les journalistes et justement, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, la commission qui s'occupe de la carte de presse des journalistes a décidé de reconduire automatiquement l'ensemble des cartes des journalistes français qui en feront la demande. Une mesure générale et exceptionnelle qui vise surtout à soutenir les pigistes qui subissent le contre-coup des mesures liées à la crise sanitaire. La commission souligne qu'au 17 mars, au moment du confinement, 7000 journalistes sur les 35000 titulaires n'avaient pas encore renouvelé leur carte.
Et puis hier, Cyril, vous nous disiez que Plus belle la vie, le feuilleton ne reviendrait pas avant septembre, eh bien France 3 a trouvé son remplaçant.
Et c'est Alex Good qui va désormais s'installer dans la case du feuilleton quotidien de France 3, une information de nos confrères de Télé Loisirs. Ce jeu Jouons à la maison, qui est aujourd'hui diffusé le samedi et le dimanche, va donc se décliner en version quotidienne à partir du 1er juin. Et quand je dis quotidienne, je veux vraiment dire quotidienne, puisqu'Alex Good sera aussi à l'antenne le samedi et le dimanche. Jouons à la maison fait partie de ces nouvelles émissions nées avec la crise sanitaire. Le jeu a été lancé il y a moins de 3 semaines et selon Télé Loisirs, il a déjà fait gagner 600 000 téléspectateurs à France 3.
Canal+, qui fait le plein question consultant.
Après Habib Bey, c'est au tour d'Éric Carrière de prolonger son contrat avec Canal+, une information de nos confrères de l'équipe. Deux consultants qui étaient dans le viseur de Mediapro, le nouveau diffuseur du foot français à compter de la saison prochaine, et qui n'a pas encore réussi à attirer de noms ronflants. En plus de Bey et Carrière, Olivier Dacourt et Sidney Govou ont également fait savoir sur Twitter qu'ils prolongeaient eux aussi leur bail avec Canal. La chaîne cryptée qui sécurise donc ses équipes en vue de la saison prochaine. Je vous rappelle que Canal+ proposera deux rencontres de chaque journée de championnat.
Disney a révélé hier ses résultats trimestriels et en a profité pour faire un nouveau point sur le nombre d'abonnés à sa plateforme Disney+.
6 mois après son lancement aux États-Unis, l'offre de vidéos à la demande par abonnement compte 54,5 millions d'abonnés. C'est un bond de plus de 4 millions par rapport au début du mois d'avril et qui comprend donc désormais plusieurs nouveaux pays, dont la France. Un résultat très encourageant, mais qui est un peu la seule matière à satisfaction du côté de Disney. La crise du coronavirus a eu un effet dévastateur sur le résultat opérationnel de Disney, qui a perdu près $1,5 milliard au cours des 3 derniers mois. La faute cumulée à la fermeture de ses parcs, le report des sorties des films en salle, évidemment, la fermeture des salles de spectacle à Broadway et la baisse des revenus publicitaires sur ses chaînes de télé.
Un documentaire sur Michelle Obama disponible sur Netflix.
Après Michelle Obama, First Lady, Michelle Obama auteur, Michelle Obama productrice, Michelle Obama conférencière, voilà Michelle Obama, sujet d'un documentaire qui porte le même nom que son livre et que ses conférences, Becoming, devenir en Very Good French.
So little of who I am happened in those 8 years. So much more of who I was happened before.
Il y a eu si peu de moi au cours de ces 8 années à la Maison Blanche. Il y a eu beaucoup plus de ce que je suis avant tout cela. Sur fond de Beyoncé, Michelle Obama raconte sa vie à la Maison Blanche, mais surtout parle de ses origines, de son parcours universitaire, de son engagement politique et de tout ce qu'il tient à cœur depuis que son mari n'est plus président. Ce film fait partie d'un deal signé il y a 2 ans entre le couple Obama et Netflix. Le Power Couple s'était engagé avec la plateforme de vidéo pour produire des documentaires avec un objectif, inspirer les générations futures. Et c'est là que Becoming prend tout son sens. Michelle Obama veut encourager les jeunes à s'engager dans la société et à être une source, et elle-même devenir une source de motivation, en particulier à la destination des jeunes femmes. Alors, si vous cherchez de l'inspiration et que vous manquez de courage pour avaler les 448 pages de son livre, Becoming, oui, c'est désormais sur Netflix.
448 pages. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Alors, Culture Média qui continue évidemment avec, dans un instant, notre info média du jour. On va s'intéresser à nouveau au dépôt bilan annoncé du groupe Presstalis. Sauver ce qui peut encore l'être, tel est l'objectif aujourd'hui. Que vont devenir les éditeurs indépendants? On va essayer de répondre à cette question avec Eric Fotorino, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1, Zadig, America et Légende.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Certains de nos journaux sont-ils menacés de disparition? Depuis le 20 avril, Presstalis, le principal distributeur de la presse en France, est en dépôt de bilan et c'est une course contre la montre qui se joue pour sauver ce qui peut encore l'être. L'entreprise, qui détient les 3/4 du marché, est très endettée, de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros au total. On en a beaucoup parlé ici, mais parce que c'est essentiel pour l'information et même également pour le pluralisme démocratique. Nouvel épisode du feuilleton, mardi prochain, Presstalis a rendez-vous au tribunal de commerce de Paris. Une audience qui peut décider d'un redressement judiciaire ou, dans le pire des cas, d'une liquidation. D'ici là, les deux coopératives qui constituent Presstalis, celle des magazines, 73% du capital, et celle des quotidiens, 27% du capital, doivent tenter de parvenir à un accord. Pour faire le point, nous recevons Eric Fotorino, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1 et des trimestriels Zadig, America et Légende. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Nous avons déjà reçu ici pour en parler Frédéric Casgrain. Je rappelle qu'il est président de la coopérative des magazines de Presstalis et patron de Marianne. Puis Louis Dreyfus, président de la coopérative des quotidiens de Presstalis et président du directoire du groupe Le Monde. Donc la parole est désormais à vous, Eric Fotorino, cofondateur du 1, Zadig, America, Légende. Est-ce que vos journaux indépendants vont survivre à cette crise? Comment voyez-vous ça?
Bien sûr que c'est une question cruciale qui se pose pour nous chaque jour depuis que on connaît le sort qui va être réservé à Prestalis. Déjà, il est en cessation de paiement et comme vous le disiez, le 12 mai, on peut aller jusqu'à une liquidation judiciaire. Donc pour nous, il y a deux moments dans ce dossier. Le premier qui a été vécu la semaine dernière avec l'autorité de régulation qui s'appelle l'ARCEP, de régulation de la distribution de la presse, qui nous a autorisé le 12 mai à quitter Prestalis, ce qui n'était vraiment pas gagné dans la mesure où on nous demandait au contraire de rester dans Prestalis, de signer un plan inacceptable, on pourra dire pourquoi, et donc on serait vraiment mort sur place dès le 12 mai. Là, on va pouvoir se faire distribuer par une autre coopérative, une autre messagerie qui s'appelle MLP, les messageries lyonnaises de presse, et ce qui nous permettra d'assurer nos recettes de l'avenir. Mais là où nous risquons toujours encore de mourir aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas du tout certains de récupérer ce qu'on appelle les encours, c'est les recettes des ventes des dernières semaines et des derniers mois sur nos hebdomadaires et trimestriels. Pour mon petit groupe de presse, ça représente à peu près 800 000 euros. Vous imaginez bien que sans ces 800 000 euros, on peut être libre et mourir quand même.
On ne se rend pas compte, il y a des gens qui n'ont aucune idée des ratios et des sommes d'argent. 800 000 euros, qu'est-ce que ça représente pour vous, pour un groupe de presse comme le vôtre? C'est beaucoup, c'est peu, c'est la moitié, c'est un dixième, qu'est-ce que c'est?
Non, c'est pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,5 millions d'euros. Quand il vous manque 800 000 euros, il vous manque pas loin de 20% de votre chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Et évidemment, vous savez, la trésorerie, c'est souvent ce qui tue, qui fragilise les PME ou les TPE, les très petites entreprises. Oui. C'est que vous ne pouvez plus payer vos fournisseurs, en l'occurrence, acheter votre papier, payer la distribution, payer les auteurs et faire de temps en temps de la promotion. Donc évidemment, ça vous empêche de tout, ça vous paralyse et vous tombez.
À situation de crise, conséquence de crise, est-ce que les papetiers, vos fournisseurs, puisque vous en parlez, vos imprimeurs, comprennent ce qui se passe au sein de Prestalis, comprennent également peut-être cette crise du coronavirus qui vous touche, ou est-ce qu'ils vous disent non, un contrat c'est un contrat et vous devez nous payer et donc vous, à moyen terme, mettre la clé sous la porte? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de compréhension de la part des gens avec qui vous travaillez?
Nous, on a un très bon imprimeur qui est l'imprimerie Maury, qui imprime beaucoup de grands journaux comme Le Point et d'autres. Eh bien, en fait, depuis même avant la crise du Covid, il y avait une telle tension sur les papetiers, sur les imprimeurs, qu'on devait payer notre papier cash. Autrement dit, on était, nous, les banquiers du système, c'est-à-dire qu'on devait acheter cash un papier à peu près un mois avant son impression et dont on aurait une recette quelquefois à 180 jours plus loin. Donc vous imaginez la corde raide entre le moment où vous déboursez votre argent et le moment où vous serez payé de journaux qui ont été imprimés sur ce papier. Donc ça, c'est quelque chose que je dénonçais déjà avant la crise de Prestalis et qui s'est aggravé, évidemment. Ils ont le couteau sous la gorge, les imprimeurs aussi, vis-à-vis des papetiers.
Mais comment se dit-il que les papetiers ne comprennent pas ça? Parce que si tous les journaux coulent, parce que les gens exigent d'être payés tout de suite, pardon de dire ça, mais il n'y aura plus de journaux, donc il n'y aura plus de papeterie, il n'y aura plus d'impression.
Vous avez raison, mais vous savez, le problème, c'est comme dans le film de Renoir, La règle du jeu, où un personnage dit à un moment donné, le problème dans la vie, c'est que chacun a ses raisons. Oui. Eh bien, les papetiers ont leurs raisons parce que le marché des papetiers, c'est un marché sanglant aussi. Il y a eu des concentrations énormes. Vous vous rendez compte, le plus grand papetier, un des plus grands d'Europe, Arjomarie, a mis la clé sous la porte, avec les papiers recyclés qui d'ailleurs étaient faits et servaient à l'impression du 1. Donc ce sont des métiers, au fond, où il y a eu une telle baisse des diffusions de la presse depuis 10 ans, mais ça s'est encore accéléré ces dernières années, que évidemment le carré, le lieu de concurrence est de plus en plus rétréci, le gâteau est de plus en plus étroit et donc on se massacre à l'intérieur de ce carré étroit.
Alors je l'ai dit, il y a deux plans qui s'opposent, plutôt deux visions que je vais essayer de résumer. D'un côté, le plan de Prestalis défendu par les quotidiens qui prônent le maintien d'une structure unique, structure qui continuera à distribuer aussi bien les journaux quotidiens que la presse magazine. De l'autre, celui, le plan des magazines qui propose une séparation des magazines et des quotidiens et qui préfèrent une association avec les MLP que vous avez citées, concurrents de Prestalis, qui distribuent 40% de la presse magazine. Vous-même, Éric Fotorino, quelle est votre position en tant qu'éditeur indépendant? Aucun des deux, les deux?
Alors, comme vous avez compris, mes publications seront chez MLP dès le 12 mai et mon prochain magazine Légende, qui sort le 17 juin, a déjà été inscrit sur MLP.
Pardon, juste un mot, c'est transitoire ou c'est définitif?
Ah non, c'est définitif. Mais pour revenir à votre question très précise, moi je vais vous faire une réponse très précise. Derrière ces deux plans divergents, il y a deux visions qui ne peuvent plus se réconcilier. Pendant très longtemps, la presse écrite, c'était une maison commune. Vous aviez des quotidiens, vous aviez des magazines et un système qu'on appelait de péréquation qui faisait que les quotidiens ne payaient pas le coût de leur distribution, ils le sous-payaient et c'était les magazines qui mettaient la main à la poche pour faire la différence.
Voilà, c'est bien
aujourd'hui,
de le dire.
Voilà, aujourd'hui, vous avez des quotidiens qui sont sur le kiosque la vente au numéro en perte de vitesse, mais en perte de vitesse choisie. C'est-à-dire qu'ils ont voté la mort du papier. Pour eux, le papier, c'est plus un problème pour eux, excepté le week-end où ils ont leurs suppléments, etc. Donc, ils sont en pleine mutation numérique. C'est le cas du Monde, du Figaro, d'un certain nombre d'autres. Donc, pour eux, évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir une seule structure commune pour pouvoir continuer à bénéficier de ce que les magazines peuvent amortir dans le prix de distribution de leurs journaux. Vous avez compris que c'était pas du tout mon option. Moi, je pense que la maison commune étant scindée, il faut une structure pour les quotidiens qui gèrent leurs problèmes de quotidien, qui assument leurs coûts et qui sont dans le show, ce qu'on appelle le show, parce que c'est chaque jour un quotidien par définition, et que l'autre côté, avoir une structure des magazines qui gère ce qu'on appelle le froid, même si le froid n'est pas si froid que ça, mais enfin hebdomadaire, mensuel, trimestriel, qui n'ont pas le même rythme, qui n'ont pas les mêmes coûts, et qu'ils s'affranchissent de cet assujettissement qui est de payer pour les quotidiens. Donc pour moi, c'est deux visions de la presse. Les quotidiens qui finalement veulent encore un peu d'argent de l'État pour et des magazines pour finalement accomplir et parachever leur mutation vers le numérique, et les magazines qui eux sont à 100% sur le papier, très peu ont voulu ou réussi leur mutation numérique et qui considèrent qu'ils ne doivent pas payer pour les quotidiens.
Limpide état des lieux, Eric Fotorino. Vous restez avec nous, vous parliez de l'État. On va raconter ce que propose l'État au groupe de presse.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de Presstalis, le principal distributeur de la presse en France, qui en dépôt de bilan. Le prochain épisode, ce sera mardi prochain. Presstalis a rendez-vous au tribunal de commerce de Paris qui doit statuer soit en redressement judiciaire ou dans le pire des cas, une liquidation. Nous sommes avec Eric Fotorino, le cofondateur de l'hebdomadaire Le 1 et des trimestriels Zadig, Américain et d'autres. L'État, évidemment, s'intéresse à ce dossier, voit que la situation est très critique, y compris pour les groupes de presse. Et l'État propose aux groupes de presse une aide financière soumise à condition. Il pourrait injecter 83% de la fameuse créance des éditeurs, soit 100 millions d'euros. La moitié sous forme de subvention, l'autre sous forme d'un prêt remboursable en 6 ans. C'est un peu technique, mais on ne peut pas faire autrement. En échange, 70% de la somme doit être réinvestie dans la restructuration de Presstalis. Si j'ai bien compris, cette proposition de l'État ne vous satisfait pas. Pour quelle raison, Eric Fotorino?
Mais écoutez, Philippe Vandel, vous venez d'énoncer en fait les termes de l'équation. On met sur papier ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on nous dit on paye 83%, mais vous remettez au pot 70, donc de votre créance qui est de 100 au départ. Mais sur ces 83%, la moitié est une dette. Autrement dit, il vous reste dans la poche, on a fait les calculs, 25, parce que c'est 70% de 83, donc c'est pas 13, c'est 25. Mais vous enlevez la moitié de 83, donc 41,5. Donc votre créance est devenue une dette de 16,5. Donc d'un plus, vous faites un moins. Et donc il était évident que pour des structures comme nous, comme des journaux indépendants, on ne pouvait pas s'asseoir sur nos recettes. Et en plus de ça, financer à perte une structure dont nous savons déjà qu'au bout de 2 ans, elle sera dans les mêmes affres que l'a été Presstalis jusque-là, parce qu'il y aura un problème de financement évident. Voilà, donc on ne pouvait pas accepter ça, et c'est comme ça, d'une certaine manière, qu'on a perçu la décision de l'ARCEP de nous libérer de l'obligation de signer un tel plan.
Il y a certains titres qui sont adossés à des grands groupes qui craignent moins de choses, et puis il y a les petits éditeurs indépendants dont vous faites partie. Combien de titres sont menacés, selon vous ?
Ah ben c'est pas selon moi, c'est objectivement, je l'ai fait calculer, il y a 200 titres indépendants, dont une trentaine qui sont très connus des lecteurs, hein. C'est aussi bien les journaux de Sopresse, de Franck Hannès, que Oui Demain, que L'Éléphant, qu'en plus ce sont des titres, si vous voulez, c'est un peu comme le sel de la terre, le sel de la presse, qui ont inventé, qui ont réinventé un lien avec les lecteurs, qui ont fait des beaux objets de presse, souvent sans publicité ou à très faible recette publicitaire. Donc c'est cette innovation-là. Et si vous voulez, moi je vais plus loin, la conclusion que je tire, et que j'ai, c'est ce que que j'ai dit publiquement plusieurs fois, que j'ai écrit, c'est que si on acceptait que disparaissent tous ces titres indépendants, cela voudrait dire que nous sommes entrés, qu'il faut acter que désormais, pour faire de l'information, pour façonner l'opinion aujourd'hui en France, il faut être un gros industriel, il faut être un milliardaire. Autrement, si vous êtes une presse indépendante, vous êtes condamné à mourir.
Vous parlez de magazine, on va entendre ce qu'on disait le directeur de la rédaction d'un important quotidien historique fondé en 1917 par Jean Jaurès. Écoutez ce qu'on disait de cette affaire, le patron de l'UMA, Patrick Le Yarrick, à ce micro.
Moi, je supplie les quotidiens et les magazines de s'entendre, c'est-à-dire qu'on fasse ensemble, à partir des savoir-faire, à partir de l'histoire de Presstalis et du modèle coopératif de Presstalis, qu'on fasse une seule messagerie. Il faut arrêter les disputes et ne pas laisser les éditeurs indépendants et les petits éditeurs de côté, parce que vous savez que dans cette affaire, les journaux qui sont adossés à des grands groupes industriels ou financiers, ils vont s'en sortir. Mais les journaux autonomes, la presse régionale même, qui a parfois un statut familial ou un statut associatif, elle peut tomber.
Vous êtes d'accord avec Patrick Le Yarrick, patron de l'Humanité ?
Alors pas surtout, je suis d'accord avec ce qu'il dit à la fin sur le risque de presse, de journaux qui peuvent tomber. En revanche, quand il dit il faut revenir à l'esprit coopératif, mais c'est une illusion, il n'y a jamais eu d'esprit coopératif. Presstalis a toujours été géré comme un clan, le clan des gros éditeurs, essentiellement de quotidiens, qui s'attribuaient des ce qu'on appelle dans la grande distribution des marges arrière, des ristournes. Et nous, je peux vous dire, on n'a jamais été bénéficiaire de la moindre clémence de Presstalis sur les tarifs de distribution. Au contraire, il a même été dit dans certaines réunions que les petits éditeurs, ils voulaient les garder parce que c'était sur notre dos qu'ils faisaient la marge. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc non, moi je pense que Patrick Le Yarrick rêve un esprit coopératif qui n'a jamais eu lieu. Moi je veux bien être coopérateur, y compris pour gérer une stratégie ou gérer des fonds, mais ça ne m'a jamais été proposé. Cela étant dit, nous, éditeurs de presse, notre métier, c'est pas de gérer Presstalis. Notre métier, c'est de faire des journaux, de bons journaux qui sont bien distribués, ça c'est leur boulot, mais qui sont intéressants et que les lecteurs veulent acheter.
On l'a dit, vous avez quitté Presstalis pour rejoindre les MLP, messageries lyonnaises de la presse, et puis Initiative, je sais pas si vous avez vu ça, il y a 7 petits éditeurs indépendants qui ont dit qu'ils voulaient quitter Presstalis. Ils sont réunis en coopérative, le Céline ou Célin, coopérative des éditeurs libres et indépendants. Il y a Sopress, il y a le journal du Mickey, il y a Picsou Magazine, il y a Royalement Vôtre édition, qui édite Point de vue, pour dire à quel point c'est différent. Il y a Première dans ces gens-là, Studio, le film français, Cosette, les Cahiers du cinéma, et même les Panini France. Que pensez-vous de cette initiative ?
Écoutez, moi je leur ai dit, je la soutiens à 100%, je n'exclus pas du tout de les rejoindre, parce que je crois que si on a demain un Presstalis d'un côté, MLP de l'autre, un nouveau Presstalis, et que Presstalis doit, avec la volonté de la profession et du gouvernement, fusionner avec MLP, les problèmes qui existent aujourd'hui par contagion reviendront tôt ou tard dans la structure des messageries. Donc je pense que l'initiative de Célin avec Emmanuel Mounier, avec Franck Hannes, est une initiative très intéressante. Je ne l'ai pas rejointe à l'heure qu'il est, parce que je pense qu'il faut fermer des portes avant d'en ouvrir d'autres. C'est une question plus de timing, de calendrier, mais moi je la suis de très près et je pense que c'est l'avenir.
Merci beaucoup Eric Fotorino, cofondateur de l'hebdomadaire Le 1. Je vais citer quand même une de cette semaine de votre numéro Le 1, Culture, le Big Bang, et on sait qu'à partir de 10h30 et dans la matinée, le président Macron va faire des annonces au sujet de la culture et le marasme qu'elle vit en ce moment à cause de la crise du coronavirus. Merci Eric Fotorino, Culture Média continue. Après le rappel des titres de 10h, nous sommes avec Carole Gessler pour son magazine Des Racines et des Ailes, Ma Normandie au printemps sur France 3, et elle présente toujours évidemment le 19-20. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino, et puis on va recevoir Daniel Thompson. Vendredi soir, Un jour, un destin, consacre sur France 3 une soirée spéciale à son papa, Gérard Houry, mais c'est pas parce qu'elle est la fille d'eux, c'est qu'elle était LA scénariste de Gérard Houry. Nos indispensables, Laurent Mariotte et son amour des fromages frais, et une série sur MyCanal, une série fraîche, même s'il y a beaucoup de meurtres. Ce sera avec Margot Barallon.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement ou si vous nous écoutez pour la première fois. Vous êtes ici chez vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Nous sommes avec Carole Gessler du 19-20. Mais là, on va parler des racines et des ailes. Le magazine, il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Et puis, on va recevoir Daniel Thompson pour l'émission Un jour, un destin consacrée à son papa, cinéaste culte Gérard Houry. Nos indispensables, des fromages frais et une série pas toujours fraîche.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Carole Gessler.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes présentatrice du 19-20, le JT de France 3 du lundi au jeudi, mais également des racines et des ailes. C'est ce soir sur France 3 avec un nouveau numéro, le thème La Normandie au printemps. Le format a changé par rapport à l'émission des débuts, sans même remonter jusqu'à Patrick de Carolis. Je me souviens, Carole, vous avoir vu dans un numéro sur Versailles, vous étiez en train de marcher sur les toits du château. Là, c'est un document de 2 heures, c'est bien ça?
Oui, c'est un document de 2 heures, c'est un passion patrimoine. Vous savez, c'est cette formule où on va à la rencontre des Français qui rénovent, qui s'occupent de leur patrimoine. Voilà, et on l'a tourné évidemment avant le confinement. Donc vous verrez la Normandie au printemps, mais avant le confinement, parce qu'on l'a tourné l'année dernière et tout début du printemps.
Voilà, parce que moi je l'ai vu, mais je le regardais, et tout d'un coup, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, je me disais, mais quand est-ce qu'elle arrive, Carole? Elle n'arrive jamais, mais vous en êtes occupée. Alors racontez ce qu'on va voir.
Alors, ce qu'on va voir, c'est déjà, justement, notre parti pris, c'est de montrer la Normandie au printemps, c'est-à-dire à la fois quand les pommiers sont en fleurs, quand le lin est en fleurs, et j'ai appris, notamment au travers de cette émission, vous allez le découvrir, que la Normandie est la première région productrice de lin. Et puis, bien sûr, la Normandie, c'est pas seulement les terres, les chaumières, c'est aussi le littoral. Donc, on va aller, comme on le fait à chaque fois, à la rencontre de chefs normands qui nous permettent aussi de rencontrer des producteurs normands. Alors vous savez, dans cet été qui se profile sans doute dans la proximité, la découverte et la redécouverte de la France, ça peut être une bonne idée de balade peut-être pour cet été, pour les prochaines semaines.
Alors qu'est-ce que c'est beau? Moi j'ai découvert Hermanville-sur-Mer et surtout Lyon-sur-Mer, je ne connaissais pas, j'explique. Ouais. C'était d'anciennes stations touristiques qui n'ont pas eu de succès. Corollaire, comme elles n'ont pas eu de succès, les promoteurs ne s'y sont pas intéressés et les anciennes maisons sont restées intactes. On n'a pas construit de barres d'immeubles dégueulasses à la place. Les lieux sont sublimes. On est à l'époque de Proust. C'est juste splendide. Il y a la plus belle
Exactement.
Maison.
Ouais. C'est l'art nouveau, c'est Hector Guimard. Ce sont toutes ces maisons, on a tous rêvé, on va dire, du Grand Hôtel de Proust. Eh bien, on est là-dedans, on est dans cette époque-là, dans cette époque où tout était possible, où la beauté était le seul critère. Et c'est vrai qu'heureusement, il n'y a pas eu de promoteur immobilier. Il y a encore des endroits comme ça en France où on a pu préserver à la fois l'architecture, le patrimoine et tout ce littoral qui est magnifique.
Et vous savez quoi, on a presque envie de ne pas le dire pour ne pas attiser la convoitise de certains.
C'est vrai, mais regardez quand même et rêvez quand même alors dans votre salon ce soir.
Non, mais c'est vraiment sublime. Alors, le reportage, vous l'avez dit, Carole, a été tourné au printemps dernier. Parfois, il y a des séquences qui donnent vraiment de la nostalgie, comme dans cette ferme où Nathalie, une agricultrice, ramasse les fraises au printemps. On l'écoute.
Cette cueillette marque le début d'une intense période d'activité.
C'est vrai qu'on aime bien la fraise parce que c'est la fin du printemps. C'est des nouveaux fruits, c'est de la couleur, c'est du sucre, ça change tout quoi. On sait qu'on est parti pour 3 mois où ça va tout le temps changer. En fait, régulièrement, là on fait la fraise, dans 15 jours on va commencer la groseille, après la framboise va commencer, puis les prunes et tout va s'enchaîner quoi. Et donc il y a toujours du changement, alors c'est agréable. Même si on part pas en vacances, c'est le meilleur moment de l'année.
C'est vrai qu'on est nostalgique et ceci dit, les agriculteurs continuent de ramasser les fruits qui poussent le fruit de leur terre. Donc allez acheter du frais et du français chez vos primeurs et pas des légumes sous plastoc qui arrivent de Hollande ou d'Espagne. Alors au passage, on a droit dans le reportage à une petite remarque sexiste quand Nathalie parle de son mari Thierry.
Mais Thierry ne fait que passer.
Non, moi je veux pas d'hommes. Ils cassent tout, ils abîment tout. Faut être précautionneux, c'est fragile. Donc c'est un boulot de femme. C'est pas un boulot d'homme, je trouve. Ils écrasent tout le temps les fraises.
Non mais franchement, les hommes, c'est pas bon pour les fraises. Je vous entends rire. Vous imaginez, Carole Gessler, si c'était un homme qui avait dit ça. Si un homme avait dit, c'est pas un boulot de femme, elles écrasent tout. Vous auriez gardé la séquence au montage?
Oui, bah, je crois qu'il faut prendre un petit peu de recul. Il y a tellement de spontanéité dans ce sonore. Est-ce que vous, je ne vous aurais pas pris une fois en flagrant délit de dire ça c'est un. Donc voilà, c'est aussi le partage des tâches, les mentalités évoluent et on a le droit, nous aussi, nous les femmes, de temps en temps se moquer
bien
et
sûr.
Prendre un peu de distance.
Non, bien sûr. Ah, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que si ça avait été l'inverse, le mec se serait fait démonter sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je veux dire. Bien sûr, moi je suis pour la liberté de parole pour tout le monde. Donc c'était ça le sens de ma question.
Bah là, on a déjà libéré la parole des femmes et quand on l'aura totalement libérée, on pourra tous dire ce qu'on veut.
Totalement d'accord. Totalement d'accord avec ça. Je vais me permettre une petite remarque. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours quand je vois un sujet télé, c'est quand la télé prend un ton télé. Je donne un exemple. Par exemple, je vous donnais une information. Arnaud Guérin est géologue et photographe. Pour son nouveau livre sur les paysages normands, il va survoler sa région dans la lumière du début du mois d'août. Ça, c'est une phrase absolument normale. Mais voici ce que ça donne dans l'émission.
Arnaud Guérin est géologue et photographe. Pour son nouveau livre sur les paysages normands, il va survoler sa région dans la lumière du début du mois d'avril.
Arnaud Guérin est géologue et photographe. Pourquoi vous prenez un ton comme ça dans les voix off ?
Non, mais vous savez, je trouve que c'est très la couleur de l'émission aussi. Elle est clairement, il y a deux voix, une voix féminine, une voix masculine, très clairement reconnaissable, identifiable. Un peu comme notre façon aussi de filmer. Une émission, c'est une identité, c'est un repère pour moi. Je pense que quand on regarde et quand on écoute Des Racines et des Ailes, on sait qu'on y est. Alors après, on peut aussi faire tout sur un ton plat, en se disant, on peut aussi prendre une machine qui fait à notre place. Voilà, je trouve que c'est la couleur visuelle et sonore de l'émission et je pense qu'au fond, c'est assez rassurant.
Carole Gessler assume et elle a bien raison.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Carole Gessler, qui présente Des Racines et des Ailes, sera ce soir un document, La Normandie au printemps. Mais vous présentez également le 19-20, ça marche toujours très bien. Vous suivez vos audiences ou en période de confinement, c'est un peu superflu les audiences ?
Bien sûr qu'on les suit. Il faut, si elles sont bonnes, ça veut dire qu'on répond aussi aux attentes des téléspectateurs. Ouais. On va être hypocrite. Maintenant, on va pas communiquer sur les audiences, ça serait totalement indécent. Maintenant, c'est vrai qu'elles sont un indicateur aussi des attentes des téléspectateurs, de leurs besoins en information. Et Dieu sait qu'il est immense. Là, je viens de quitter la conférence de rédaction qu'on fait depuis le début du confinement avec l'équipe d'Anne-Sophie Lapix. Donc, le 20h et le 19h, on est ensemble, dans la même pièce mais très séparés, avec nos masques et on est en visioconférence avec les chefs de services, sociétés, politiques, économie et on essaye de bâtir ensemble, d'optimiser nos moyens humains, matériels dans cette période compliquée aussi pour nous, mais avec notre besoin de continuer à informer. Donc on essaye d'être comme tous les Français, agile, créatif, inventif.
On va parler du contenu. Je vais citer, comme vous êtes trop modeste pour le faire, hier, par exemple, vos audiences, 3,2 millions. Vous étiez loin devant Cyril Lignac, Tous en cuisine sur M6, devant Camille Combal sur TF1 et Qui veut gagner des millions, devant Quotidien, devant Hanouna. Il y a juste Nagui qui fait mieux, n'oubliez pas les paroles, 3,58 millions. Mmh. Mais c'est le même groupe. J'allais vous demander comment se passe le travail, le confinement concrètement. Vous venez de me répondre un petit peu. La cohabitation avec vos collègues de France 2, ça se passe bien. Si vous êtes en réunion ensemble, le confinement a réussi à obtenir ce que les directions n'avaient pas réussi, fusionner les rédacs de la 2 et de la 3. Et hier, il n'y avait pas moins de 9 sujets en commun sur une vingtaine, et ça c'est normal. Est-ce que ça va être, est-ce que ça a tendance à être pérennisé ?
Alors, juste une petite correction, on n'avait pas 9 sujets en commun, on en avait 4 avec le 20h.
Ah bon ?
On essaye de faire, oui, tout à fait, si vous recalculez bien, on en avait 4 en commun.
Alors moi j'ai trouvé la rentrée en ordre dispersé, les directeurs d'école devant un choix difficile, oui, les équipes mobiles contre le virus, la carte des départements même... point global, le Lama, une piste contre le virus, le confinement, les stations-service en panne, et un sujet sur le plexiglas.
Alors, vous allez voir, par exemple, les directeurs d'école, ce n'est pas le même sujet. Alors, c'est
d'accord,
peut-être le même titre, le mais
même
ce
thème.
N'est pas le même sujet. C'est-à-dire que nous avons puisé dans nos forces en région et du réseau de France 3. Et France 2 a fait, avec une de ses équipes, un angle très spécifique sur les directeurs d'école. Donc, vous voyez, on essaye d'être intelligent. Alors, aujourd'hui, je ne vous cache pas, on travaille avec des moyens comme toutes les entreprises qui sont de fait réduits parce qu'on est obligé de faire du télétravail, on est obligé de faire du montage à distance, on est obligé de penser à sécuriser l'ensemble des équipes. D'ailleurs, je leur dis merci, mais que ça soit en région, régie, parce que vous savez, la régie c'est compliqué, on doit aussi la partager, parce que la régie c'est stratégique, vous savez très bien à Europe 1, si bien on n'a plus de régie, on ne peut pas diffuser. Donc ça, ça a été quelque part l'obsession, la priorité qui était de préserver le personnel technique en régie. Donc ça, on mutualise le studio, on mutualise au maximum les équipes éditoriales, tout en essayant de se différencier. Vous aurez vu aussi qu'on a fait hier deux plateaux totalement différents avec deux journalistes qui sont venus nous parler de thèmes totalement différents de celui du 20h. On essaye de faire avec l'objectif, c'est d'informer au mieux chacun avec notre couleur, c'est-à-dire que France 2 est beaucoup plus tournée vers l'international, va faire des sujets plus pointus sur certains pays, sur certains de nos voisins. Nous, on va essayer de faire plus, on va dire, les régions et comment on s'adapte et comment dans les entreprises concrètement, etc. Donc voilà, donc c'est un travail sincèrement d'alchimie de tous les jours, ça fait deux mois qu'on le fait. Au début, sincèrement, comme tous les salariés qui devaient continuer à travailler, je suis venue avec une certaine angoisse, je rentrais le soir, je me lavais 15 000 fois les mains, j'avais peur pour mon mari et pour mon fils confiné. Voilà, on vit tous les mêmes choses. Et c'est vrai que rarement les journalistes vivent au quotidien ce que les Français vivent globalement. Là, on est dans la même réalité.
Exactement. Ça m'a fait penser, pardonnez-moi, je vous interromps, ça m'a fait penser à une phrase, à la baseline de Groland sur Canal+, qui disait « L'actualité, c'est vous qui la vivez et c'est nous qui en vivons ». Et là, cette fois, tout le monde vit l'actu, journaliste et pas journaliste.
Et vous savez, quand on parle de l'isolement des personnes âgées, je veux dire, j'ai une maman qui vit seule dans une maison en Lorraine, je m'inquiète parfois pour elle, je me demande si elle peut sortir, quelle est ma responsabilité d'aller la voir. Ces questions que les Français se posent, on se les pose nous aussi, journalistes, et donc on essaye de faire au mieux et d'essayer de répondre à ces questions, parce que nous aussi, on se les pose. Je vais au supermarché, je fais la queue comme tout le monde en essayant de garder mes distances.
Question technique, avec le confinement, comment ça se passe pour le coiffeur, Carole Gessler?
Alors ça paraît bien anecdotique.
Non, pas du tout. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Je ne pose jamais de questions gratuites. Parce que j'ai retrouvé une interview de vous dans Télé Grande Chaîne en février 2016. Et vous avez dit, un jour sur deux, à 11h, je vais chez le coiffeur. Comment faites-vous maintenant?
Eh bien, je n'ai plus de coiffeur, donc je ne fais plus de brushing. Et finalement, c'est très bien pour mes cheveux. Non, je rigole. Et je n'ai plus de maquilleuse non plus. Donc, tous les présentateurs aujourd'hui des JT de France Télévisions, la décision a été prise pour limiter les risques de contamination. Il n'y a plus de coiffeur. Il n'y a plus de maquilleur, parce que vous imaginez bien que là, pour le coup, la proximité, malgré les masques. Eh bien, on se débrouille. On a un kit maquillage. Eh bien, comme tout le monde, on est agile. On a dû s'adapter. Je me souviens de cette interview d'un anthropologue au tout début sur une radio qui disait... Darwin a bien montré que les espèces qui survivaient sont celles qui sont agiles et qui s'adaptent. Eh bien, nous sommes comme les Français, on est agiles et on s'adapte.
Merci beaucoup, Carole Gessler, pour cette énergie. Je rappelle, donc le 19h, c'est 19h à 20h. Et des racines et des ailes, c'est ce soir sur France 3, la Normandie au printemps.